la méditation. Je proposais encore la méditation romaine. C'est le mois de la vie missionnaire, l'évangélisation des peuples. Alors c'est la congrégation pour l'évangélisation des peuples qui nous propose des méditations. Laisse-moi bêcher autour du figuier pour y mettre du fumier. Peut-être donneras-tu du fruit. Mais sinon, tu le couperas. Si l'image du figuier nous renvoie à nous-mêmes, il y a une bonne nouvelle, c'est que le maître de l'univers nous accorde un temps de vie pour laisser la grâce divine agir. Il nous accorde un temps de vie pour que la grâce divine produise ses fruits. Des fruits de paix, de joie, de justice et d'amour dans notre monde intérieur, en nous. Alors, voici ici, c'est la figure du vigneron qui nous représente, nous. Nous devons y reconnaître la part que nous avons à prendre dans l'intercession et les efforts que nous devons accomplir pour contribuer à la conversion de celui qui est proche de nous et du prochain. En tant que communauté, en tant que nous sommes une seule vie avec l'Église, il va de soi que nous sommes appelés à un double effort, nous convertir nous-mêmes sans s'arrêter, en devenant toujours plus réceptifs, en devenant toujours plus réceptifs à la parole de Dieu et dociles à l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour qui vivifie et agit pour la conversion du monde. Et ne pas voiler le visage miséricordieux et patient de Dieu, Père de Jésus-Christ, dont la première et unique volonté est de sauver et non pas de condamner. L'expérience montre que on obtient davantage d'un cœur en lui faisant confiance. Nous ne gagnerons jamais des personnes à l'amour divin en leur faisant peur, en les emprisonnant dans leur disgrâce. Puis cette manière de les approcher, guider nos actes, notre action missionnaire, sans en atténuer la force prophétique, pour autant, ni la profonde compréhension de la nature humaine et du contenu de la rédemption universelle et du salut personnel de chacun. C'est pas une coutume très répandue, c'est vrai, de lire les textes les textes romains, les textes de congrégation, les textes de dicastère, les textes de... les textes de concile, etc. C'est dommage parce qu'il y a des... c'est toujours très juste, c'est toujours très... Le figuier, hein, dans le langage de la Bible, dans la coutume des Hébreux, ça représente, en plus au milieu de la vigne, là, au milieu de la vigne, au milieu de l'église, il y a un figuier. Au milieu de la vigne, dans la vigne, il y a ce déploiement. Et on ramasse le vin et on le presse, et le sang précieux. C'est le lieu où le sang précieux de Jésus ne cesse de se répandre, de se produire, de mûrir au soleil de la divine volonté, des commandements d'amour de Dieu. Dans l'église, alors, sans arrêt, le sang de Jésus, qui nous recouvre comme une armure, un casque, un bouclier. Et alors, au milieu de la vigne, il y a un figuier. Le figuier, il nous représente, dans la coutume religieuse donc d'Israël, le figuier, ça représente celui qui se nourrit de la révélation, qui se nourrit de la vérité venue d'en haut. Il s'en nourrit. Il se nourrit de la Torah, il se nourrit. Il comprend, pas du tout comme une règle, hein, les préceptes de Dieu. Il les comprend comme une espèce, comme une révélation de ce que Dieu est à l'intérieur de lui-même. Et chaque parole de Dieu est pour lui comme une espèce de porte ouverte à l'intérieur de l'intimité des personnes divines, de la Très Sainte Trinité, et du Messie. Le figuier, c'est... Oui, c'est vrai, il épuise le sol. Et toute l'eau. Et il donne comme ça du fruit, on espère en son temps. Mais il représente l'homme qui est très religieux, l'homme qui est très lié à Dieu. Il représente celui qui est lié à celui qui descend comme ça, comme une onction, et surgit à l'intérieur de lui, comme une présence intime de Dieu. Il est présent au Messie, et c'est un homme messianique. Le figuier, c'est la sève messianique qui ne cesse de pousser, de pousser, de pousser, du fond de la terre et de la pauvreté de l'eau reçue. Qui vient puiser l'eau dans la terre sèche, et une force pour les puiser dans les racines de son Dieu, de son Père. Il vient puiser, il est toujours assoiffé quelque part, et du coup, à l'intérieur de lui, il y a une sève, il y a une qui se répand, qui monte, qui pousse, qui fait des larges feuilles. Il a des vertus, quoi. Il a des vertus. Il est magnifique. Il est intérieurement magnifique. Il est intérieurement magnanime. Il voit les choses en grand. Il est intérieurement profond, quoi. Il est ajusté, quoi, à tout ce qui est bienveillance, foi, lumière. C'est une huile nouvelle qui est parfumée, j'allais dire, qu'il l'a mis. Alors, et quand ça sort par la bouche, ben, il communique la révélation, il communique cette présence messianique. Cette présence messianique l'envahit tellement qu'elle finit par déborder de son visage. Et la lumière, et il n'y a plus le voile du péché sur son visage. Et du coup, ça se voit et ça se communique par le visage, par la parole, par le regard. Tout ce qui l'entoure, il communique la présence messianique. Et le Messie, du coup, l'onction, l'huile nouvelle de Dieu, dans la nature humaine, envahi par son Messie, se communique à la terre tout entière, et en tout cas à ceux qui l'entourent, d'une manière telle que tous ceux qui l'entourent sont dans la lumière. Ça va même jusqu'à la transfiguration. On appelait ça les Hokmei Talmud chez les Hébreux. Il y a des noms très connus pour qui c'est. Nous, on sait que, par exemple, Nathanaël faisait partie d'un figuier, Jésus le dit. Tu étais sous le figuier, c'est moi qui étais là. C'est-à-dire, c'est moi, le Messie. C'était moi. Nathanaël était quelqu'un, par exemple, avant d'être apôtre, et ben c'était quelqu'un comme ça, un figuier. Siméon Anachi, c'était un figuier, c'est sûr. Hillel, Yonatan ben Zakkai, Yonatan ben Uziel, tout ça, ils étaient très nombreux de toute façon. C'était pas du tout rare. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, il a tenu pendant 1300 ans comme ça, en communiquant l'onction, l'huile nouvelle du Messie, et qui était donnée. Qui s'était donné et qui se livrait à tous ceux qui voulaient vivre de l'esprit, d'amour, de lumière, pour la rédemption du monde dans le Messie, qui était déjà là, qui les enveloppait, qui les glorifiait, qui leur traçait le chemin, qui ouvrait la mer Rouge, qui ouvrait. Déjà les prémices du pain qui rassasie le Père en les rassasiant par la manne, qui ouvrait les rochers pour leur faire déjà aspirer à l'eau qui se transformait en figuier en eux. C'était des êtres messianiques. C'était le figuier. Alors c'est bien, il y a ces deux aspects. Il y a le figuier et il y a la vigne et le vigneron, c'est nous. Et il faut qu'on fasse avec le figuier, il faut qu'on fasse avec la vigne. Il faut qu'on soit vraiment entièrement, mais complètement en soi, qu'on aspire. Aspire par le fond, quoi. L'huile nouvelle du Messie, du Christ. Nous encore plus, bien sûr. Nous encore plus que Siméon, Anachi, Nathanaël. Encore plus qu'on aspire, qu'on spire cette spiration, quoi, qui fait que la vie, la joie incréée, éternelle, substantielle de Dieu, qui est le Verbe de Dieu dans son Messie, cette mission invisible pousse à partir du Père à l'intérieur de nous et de ses racines, de cette racine là on aspire cette spiration d'amour de la première personne, de la deuxième personne de la très sainte Trinité. Une spiration active, elle veut se prolonger, elle se prolonge dans le désir et dans l'intériorité du figuier. Elle doit donner du fruit, c'est-à-dire que elle doit évangéliser, elle doit apporter la bonne nouvelle que Dieu est vraiment là, et que ça se voit, quoi, et que ça s'entende, et que ça se comprenne, parce qu'une parole messianique, une parole qui est communiquée comme ça, d'une manière sponsale, d'une manière messianique, parfaite, enfin accomplie, du moins surabondante, voilà. Une intériorité entièrement envahie par Jésus, par le Verbe de Dieu, par le Christ, par cette huile nouvelle de la sainteté réservée à celui qui aime Dieu et à celui que Dieu aime. Cette évangélisation-là, c'est une évangélisation déjà de soi-même, et elle doit aller jusqu'à l'invasion totale de tout ce que nous sommes, de notre existence, de notre vision intérieure de Dieu dans cette invasion, cette liquéfaction, ce parfum, cette liqueur, cette vie divine qui est qui prolonge, j'allais dire, qui prolonge tout ce qu'elle est à l'intérieur de nous. C'est une inspiration active qui se prolonge. C'est une mission divine de la personne divine de Dieu elle-même qui prolonge ce qu'elle vit, ce qu'elle est en amour à l'intérieur de celui qui prie dans le Messie. Et ça, c'était la vie d'Israël. C'était la mystique d'Israël. C'est la mystique du pharisien. Le pharisien, c'est un homme très très pieux, mais qui n'est pas encore arrivé à cette perfection. Mais il y aspire. Il y aspire. C'était quelque chose quand même, cette sainteté. Israël, c'est vraiment la sainteté. On n'imagine pas ce qui s'est passé entre, pendant 1300 ans entre Moïse jusqu'à Jean-Baptiste et Joseph et Jean, l'adolescent. On n'imagine pas. On n'était pas au paradis au milieu d'eux, mais tout de même, c'était la paix. C'était le réconfort. Tout le monde était d'accord pour vivre du Messie intérieurement et ensemble. Et les communications se faisaient comme ça, à la maison, dans la synagogue, dans les rues, sur les chemins, dans les repas. C'était le sujet continuel. Et s'il y en avait toujours un, qui communiquait la grâce, tout le monde en profitait. La grâce messianique. C'était un peuple messianique. Il y avait le figuier. Au milieu de la vigne, il y a un figuier. Et le vigneron, c'est nous, il faut qu'on cultive le figuier. Il faut qu'on cultive aussi la vigne. C'est ça ce que dit la méditation de la congrégation pour l'évangélisation des peuples. Le véritable Israël de Dieu au milieu du monde, au milieu des multitudes, le véritable Israël de Dieu, le grand monarque, enfin la grande, le trône de la sagesse d'amour qui s'est incarné. Le trône, c'est-à-dire le royaume qui a la maîtrise. L'abondance et la surabondance de cette sagesse, de l'effacement de l'aspiration active, de la deuxième personne de la très sainte Trinité, jusqu'à son débordement sponsal, de la Jérusalem dernière. Alors ça fait la vie d'Israël, le véritable Israël de Dieu au milieu des multitudes. Il faut cultiver, bien sûr. Et donc, Jésus fait une parabole. Il dit, voilà, il y a une vigne. Il y a le vigneron. Il faut beaucoup réfléchir à ça. Parce que les trois, hein, c'est nous. Hein. Nous sommes le figuier. Nous sommes la vigne. Nous sommes le vigneron, chacun d'entre nous. Voilà, hein, si je veux résumer le message de la congrégation pour l'évangélisation du monde. On est les trois dans la parabole. Voilà, c'est ce qu'on, pour employer les termes techniques, c'est l'exégèse de la congrégation. Pour l'évangélisation des peuples. Et c'est très très juste, c'est vrai. Jésus fait cette parabole. Il le fait pour ceux du troisième millénaire, ouais, pendant 3 ans. Ça fait 3 ans que je viens. Voilà, le troisième millénaire, il n'y a toujours pas la vigne, le figuier et le vigneron. Bon, bah. Eh oui, et puis c'est dans un contexte aussi. Ouais, Jérusalem, voilà, Ponce Pilate. Il fait massacrer à l'intérieur du temple de Jérusalem des Galiléens qui sont en train de offrir l'agneau. Il mêle des hommes. Et puis d'un seul coup, à un moment donné, allez hop, tous les Galiléens qui sont là, parce que c'est le jour des Galiléens, sont massacrés par les hommes envoyés par Ponce Pilate. Vous vous rendez compte, le temple était rempli du sang des Galiléens et des agneaux. Mais si vous ne vous convertissez pas, ben vous périrez tous de la même manière. J'ai rencontré un jour un prêtre, enfin, que je connais, disons, et qui disait, bon, bah, moi je suis prêtre, mais bon, je fais le péché, quoi, voilà. Je le fais ouvertement, je le fais. Hein, il avait une tendance, donc, sodomique. Et donc, je le fais. C'est comme ça. Puis. Je suis quand même prêtre parce que je continue, je dis la messe et puis j'aime parler de Jésus aux gens et tout ça. Et donc il disait, je n'ai qu'une seule possibilité pour ne pas être damné. C'est de mourir martyr. Alors je continue comme ça et j'espère, puisque je parle ouvertement de Dieu, du Christ, tout ça. Et j'espère que c'est la seule porte de sortie pour moi, puisque de toute façon, je ne renonce pas à mon péché. Et donc, il voulait dire, ouais, un jour, il dit, voilà, il veut bien aller au ciel, bien sûr, mais pour ça, il sait qu'il n'y a qu'une seule possibilité, c'est qu'il meurt martyr. Voilà, les Galiléens, ils ont mêlé le sang de l'agneau avec leur sang. Parce que, bon, voilà, il y a une espèce de martyr qui s'est fait incompréhensible à l'intérieur du temple de Jérusalem, dans la maison du Père. C'est dans ce contexte-là que Jésus donne cette parabole. Et il donne cette parabole aussi dans un autre contexte, parce qu'il y avait la tour de Siloé, une tour voilà, qui était à côté d'un pont, bon, peu importe, dans Jérusalem. Qui s'est effondré, toutes ces pierres énormes qui tombent sur 18, voilà. 18 personnes écrasées par cet effondrement d'une tour. 18, 6 personnes, plus 6 autres, et encore 6 autres. Mais si vous ne vous convertissez pas, mais vous périrez tous de la même manière. Marie, elle n'a jamais aspiré qu'au martyr sanglant du Christ. Elle n'a jamais aspiré. Elle n'a pas. Vous voyez, je ne sais pas comment dire. Vous périrez tous de la même manière. À l'heure de l'Antichrist, les victimes de l'Antichrist, c'est si on ne conjoint pas la vigne. Le figuier et le vigneron. Il y a une vie intérieure, cette huile nouvelle du Messie, d'en vivre jusqu'à la dimension spensale de la signification de chacun de nos pas, de nos actes sur la terre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans le temple, dans le temple où l'agneau a été immolé, où il a émané sa spiration active, jusqu'à la passivité substantielle du Saint-Esprit, lorsque je vois de l'intérieur ce qui se passe à l'intérieur de l'agneau, quand il vit ça avec Marie dans le temple du Père, dans la paternité de Dieu, quand je vis de ce que c'est que le Messie dans son accomplissement, sa surabondance, sa pénétration, et si je le vis dans la vigne, c'est-à-dire à l'intérieur, en communion avec le corps mystique de l'Église tout entière, c'est-à-dire en Marie, dans le cœur de Marie, sur la terre immaculée, la terre profonde, la terre apprêtée. Si je vis de cette, du sang, c'est-à-dire du précieux, c'est-à-dire si je vis du fruit du sacrement, de l'immaculation, de l'immolation de l'hostie, dans toute la nature humaine, dans chaque frère répandu, dans chaque enfant, si je conjoins le sang et le sang dans le sang, trois en un endroit, pour le faire surabonder dans la bienveillance d'un amour qui vient du feu séraphique de Dieu. Si je suis dans la vigne, si je suis le vigneron, c'est-à-dire si je cultive cette avec du fumier, c'est-à-dire avec beaucoup, beaucoup d'humilité, alors, tu ne surapparas pas le sort de l'Antéchrist, des victimes de l'Antéchrist. Et tu ne subiras pas non plus le sort des tièdes. Dans le troisième millénaire, il n'est plus autorisé, si je puis dire, d'être imparfait. L'Immaculée Conception est devenue obligatoire. L'Assomption est devenue obligatoire. La responsabilité divine, incarnée, est devenue obligatoire. La signification sponsale et divine, séraphique de notre vie est devenue obligatoire, une nécessité. L'humilité parfaite est devenue obligatoire. Le véritable Israël de Dieu, au milieu des multitudes, est devenu une nécessité de grâce, de lumière et de rédemption pour le monde entier. Avec tous les enfants, avec tous les enfants, avec ces myriades, avec tous les enfants, marqués par l'amour brûlant, insatiable de Dieu le Fils pour Dieu le Père, de l'épouse pour l'époux, eux qui sont royalement réceptifs au Saint-Esprit vient avec fond. À l'intérieur de parce que Saint-Esprit, il vient se fondre dans son épousé. Et l'Esprit Saint, c'est l'époux, finalement, à la fin du monde, de l'Immaculée Conception déployée dans toute la vigne. C'est comme ça que le Messie et l'épousé viennent se conjoindre ensemble dans le vigneron, dans la royauté. Laisse encore. Je vais cultiver, je vais mettre beaucoup de fumier, sinon tu le couperas. Alors, il faut avoir une véhémence, une intrépidité, une confiance, parce qu'il y a une grâce qui est donnée, qui n'était pas donnée au 14e siècle, au 8e siècle, hein. Là, c'est le troisième millénaire, ça y est. En plus, c'est l'an 2019. Voilà. Comprenez qui pourra. Et en plus, on arrive au 555e jour où les vannes Des heures où l'Esprit Saint peut venir fondre dans la Jérusalem nouvelle jusqu'à nous, dans l'intériorité des racines de notre grâce chrétienne, sont ouvertes par le Saint-Père dans l'Eucharistie. Oh Marie, elle fait à chaque Eucharistie produire en tant que mère de Dieu, génétrice Dei, engendrante de Dieu, elle engendre la rosée du Verbe incré éternel, épousée, deuxième personne, une rosée vivifiante, pénétrante dans chaque membre vivant de l'Église, du Dieu vivant, de chaque figuier, de chaque vigne, de chaque grappe, de chaque élément, de la bienveillance totalement brûlée de divin pur et de la virginité céleste. Il y a une grâce qui est donnée, qui n'était pas donnée avant, qui est donnée maintenant, dans une unité, comment dirais-je, dans l'indissolubilité d'une unité à l'intérieur de l'humilité parfaite, qui fait que on devient le trône sur lequel Saint Joseph peut lancer la faucille en disant la moisson est prête, c'est la vendange. Et ce trône de la sagesse, ce trône de la sagesse éternelle, c'est notre demeure. Jamais la Sainte Famille de Dieu n'a été aussi intime à notre vie intérieure et à notre propagation extérieure. C'est simple en fait. On ne peut pas cacher au monde qu'il y a la mort de Dieu. Ce n'est pas la condamnation, mais c'est le pardon, la miséricorde et la lumière qui se donne de manière libérale, magnanime, magnifique, profonde, adaptée, affinée à chacun et à tous. On ne peut pas voiler ça aux gens qui nous entourent, on ne peut pas leur cacher, on ne peut pas leur montrer un visage de condamnation, un visage de critique, un visage de désespoir, ça, ces gens. Vous êtes des démons et puis c'est tout. Non, 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 non. La vigne, le figuier, le vigneron. Une confiance de l'humilité absolue, surabondante, brûlante, séraphique et parfaite, inconditionnellement et continuellement. On en vit tellement dans le figuier que la vigne du coup s'y déploie et que le vigneron fait son travail. Ah, je dis ça parce que la messe qui est célébrée là aujourd'hui est une messe qui est célébrée en l'honneur de Marie, trône de la sagesse incarnée. Marie, trône de la sagesse. Elle est mère de l'Église, elle est reine du monde séraphique, de toutes les hiérarchies angéliques qui descendent jusqu'à nous, se concentrent dans sa maternité avec, pour engendrer en nous la divinité substantielle, hypostatique, la divinité vraiment, hein, la nature divine, intime, intérieure, brûlante, vivante, tranquille, pacifique, s'adaptant parfaitement, exactement à chacun, bon, de Dieu, dans tout, à chaque Eucharistie. Ouh. Et à cet engendrement en nous, dans le corps, dans notre corps originel, qui vient revisiter notre conception, qui vient revisiter la signification sponsale de notre oui originel, de notre oui actuel, qui vient revisiter notre baptême qui vient revisiter, notre confirmation qui vient revisiter, la gloire transfigurante, apparence figurée cachée, mais à cause de son humilité absolument parfaite de l'Église en train de s'épanouir et de tracer le chemin de la Jérusalem dernière pour recevoir ces grâces dernières de la Jérusalem qui par torrent des fleuves qui descendent de Marie dans l'Eucharistie, dans l'infaillibilité du Saint-Père, et de l'Église des fleuves qui descendent de la Jérusalem dernière, sans presser notre Seigneur Jésus-Christ, dans chacun des membres vivants, notre Seigneur Jésus-Christ vivant dans l'Eucharistie, donné resplendissant des fleuves qui descendent de sa divinité dans les membres carnés de notre savoureuse surabondance de miséricorde vis-à-vis du monde. Marie, c'est la sagesse de la croix. C'est la sagesse incréée de Dieu, d'amour, sponsor, inspiration de Dieu, qui aspire tout Dieu et qui inspire Dieu tout entier dans l'effacement de tout ce qui reçoit cet effacement en le faisant surabonder dans l'inspiration. Qui est la Pentecôte de la Jérusalem céleste, dans la Jérusalem spirituelle que nous sommes. C'est ça. Marie fait l'unité des trois, de la Jérusalem nouvelle, la Jérusalem spirituelle et de la Jérusalem céleste. Elle est dans sa maternité divine, dans sa royauté. Elle est l'indissoluble unité des trois ensemble, engendrant Dieu en nous. Elle est le trône de la sagesse. Alors du coup, on a cette bienveillance, cette humilité, cette autorité, cette grâce, qui est la grâce dernière et accomplie, en pleine étude. En pleine étude reçue, tu ne peux pas plus. Elle est entièrement conjointe à toutes les frontières, les profondeurs, les hauteurs, les splendeurs de la Lumen Gloriae. Et tu es face à face. Pour ça qu'il est beau le psaume. Hein. Ah oui. Voici tout, c'est le peuple. Voici ton peuple. C'est ton peuple. Alors voilà. Vois ton peuple. C'est tous ceux qui cherchent le face à face. Avec toi. Qui recherche ton face à face, Seigneur. De ces temps que nous vivons, il reste combien? Quand il reste un mois, avant que ça fasse le 555e jour de cette libérale ouverture, faillible, mariale, immaculée, de cette grâce eucharistique, de la fécondation de la divinité de Dieu dans l'incarnation de notre vie, parce que nous sommes le figuier, la vigne et le vigneron, nous sommes le véritable Israël de Dieu sur la terre. Du moins, nous acceptons en tout cas d'y pénétrer et d'en être et d'aimer ceux qui y sont déjà et qui ont répondu oui à Marie, oui au Saint-Père et oui à la grâce d'aujourd'hui. Que le reste ne soit totalement indifférent. Voilà ce qu'il faut. Mais ça, c'est nous. C'est notre oui. C'est notre liberté. C'est notre capacité. C'est notre réceptivité. C'est notre grâce. C'est notre mission. C'est notre évangélisation. C'est notre bonne nouvelle à tout l'univers de Dieu, à tout l'univers angélique, à tout l'univers de la nature humaine, à tout notre univers profond et intérieur, et à toute l'indivisibilité de tous ces univers. Volons, volons à sa rencontre, car voici Jésus qui vient à nous. Allons, allons à sa rencontre. Volons, volons à sa rencontre, car voici le Verbe vient resplendir en nous. Éclaire ta lampe et fais-la brûler dans ton cœur. Si les bouées là pénétreront dans sa lumière, voici le Verbe vient resplendissant, victorieux de tout. Allons, allons à sa rencontre. Volons, volons à sa rencontre, car voici Jésus qui vient à nous. Éclaire ta lampe et fais-la brûler dans ton cœur.